Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de ce numéro de Métropolez-vous, celui de Noël que je vous souhaite joyeux malgré les inquiétantes nouvelles sur le front sanitaire. La période dite des fêtes ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, c'est peu de le dire, et le début de l'année 2022 encore moins. Cela étant, nous n'allons pas nous laisser abattre par cette ambiance morose et pour motiver les troupes, j'ai choisi de consacrer cette émission aux belles choses que nous offre notre chère métropole toulousaine. Vous savez sans doute que le patrimoine toulousain métropolitain est riche. Cette émission s'en est souvent fait l'écho comme d'autres sur Radio Présence en général. Mais savez-vous qu'il existe un plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Toulouse Métropole ? Ce projet et ce document sont peu connus des citoyens, bien qu'ils soient d'une très grande importance pour la préservation de nos quartiers et de nos bâtiments historiques. Il était donc temps de vous les présenter et de vous expliquer comment ils sont élaborés et alimentés. Nous partons tout de suite à la découverte du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Toulouse Métropole. Et pour nous guider dans cette découverte, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans cette émission Annette Léniaud, vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'urbanisme et des projets urbains, également adjointe au maire de Toulouse. Bonjour madame, merci d'être encore au rendez-vous de Métropolez-vous. Je propose qu'on précise d'emblée ce qu'on appelle site patrimonial remarquable de la métropole toulousaine. De quel site, de quelle zone parle-t-on ?
Alors le site patrimonial remarquable toulousain, qui est essentiellement sur le territoire de Toulouse, et représente le centre historique. Pour faire court, certains ont pu entendre un autre acronyme qui est ou un autre terme qui est le secteur sauvegardé, puisque c'est la loi Malraux qui a instauré dans les années
60,
je crois, quelque chose comme ça, qui a instauré le principe des secteurs sauvegardés pour identifier dans les centres historiques et préserver dans les centres historiques le patrimoine. Et donc le secteur sauvegardé toulousain a été créé, c'est un périmètre qui identifie un centre historique qui mérite d'être préservé, et celui de Toulouse a été créé en 86. Donc c'est un vieux secteur sauvegardé qui s'intitule maintenant secteur patrimonial remarquable, mais c'est un périmètre et c'est un ensemble de quartiers du centre-ville de Toulouse qui a été identifié pour la richesse de son patrimoine et qui correspond en gros au périmètre historique du rempart médiéval, à l'exclusion de la cité administrative et de la faculté des sciences, qui n'a plus rien de ce caractère historique du reste du centre-ville.
C'est la faculté des sciences ou la faculté de droit ?
Non, de droit, pardon.
Voilà, ce qu'on appelle aussi l'arsenal.
Oui, pardon.
Donc, site de 256 hectares tout de même. Oui. C'est-à-dire un des plus grands de France.
Hein. Voilà, c'est un des plus grands secteurs patrimoniaux remarquables de France, ce qui correspond à l'histoire toulousaine, mais qui nous oblige un peu, puisque nous devons identifier 4000 édifices. Non, nous devons faire l'inventaire parce que sur la base de ce secteur patrimonial remarquable, il y a avant tout la connaissance, savoir identifier et connaître le patrimoine dont nous disposons dans le centre de Toulouse.
Alors on va parler de cet inventaire, mais peut-être aussi la vocation du plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce site patrimonial remarquable. Quelle est-elle précisément ? C'est préserver, valoriser le patrimoine architectural ancien, mais aussi contemporain. Pas seulement aussi,
tous les patrimoines. Alors bien sûr, c'est d'abord le connaître, puisque on a une richesse patrimoniale exceptionnelle dans le centre de Toulouse et peut-être méconnue de certains. Alors c'est vrai qu'on a des patrimoines connus de tous, des hôtels particuliers. Au passage, il y en a quand même quelques 120, ce qui est exceptionnel, hôtels particuliers dans le centre historique. Mais pas que, il y a des édifices qui sont moins anciens, malgré tout remarquables également. Et puis, il y a des édifices qui sont contemporains, qui sont art nouveau, art déco. Il y a quelques petites pépites dans le centre historique de Toulouse qui sont un témoin de ce que nous voulons faire aussi dans le centre de Toulouse, que nous ne voulons pas muséifier, mais qui est un cœur de ville qui doit évoluer avec son temps. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que certains édifices qui sont art déco sont reconnus comme étant des édifices patrimoniaux remarquables, alors qu'ils ont été construits à une époque qui n'était pas l'époque historique de Toulousaine. Donc, il y a eu une évolution et nous souhaitons maintenir malgré tout cette évolution. Donc, le patrimoine contemporain fait partie de nos préoccupations aussi. Dès 2014, Jean-Luc Moudenc a souhaité parce qu'ils s'intéressent au patrimoine, parce que nous devons préserver pour les générations futures le patrimoine dont nous disposons. Et il a souhaité que l'aspect du patrimoine, la préservation du patrimoine, soit intégrée dans le projet urbain. Donc, c'est vrai que très souvent, le patrimoine est plutôt associé
à la culture,
parce que ce sont des biens culturels, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça, il y a gestion de ces biens également qui est important, et l'évolution de ces biens qui relève plus d'un projet urbain que d'un projet strictement culturel. Donc il a vraiment souhaité associer patrimoine et urbanisme.
De manière aussi à échapper à ce que vous appelez la muséification de la ville. Eh bien, merci pour toutes ces premières précisions. Tout ça est un peu technique, donc il fallait donner quelques explications préalables avant d'aller plus loin. Nous allons attendre un peu pour ça, puisqu'il est maintenant l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité métropolitaine, et donc avec Corinne Saint-Félix, qui nous a préparé son habituel flash d'informations métropolitaines. Métropolez-vous, l'actu. Et nous commençons avec une information qui concerne la LGV Bordeaux-Toulouse. Le plan de financement est presque bouclé.
On n'est pas loin du but, estime le préfet de région Occitanie, Étienne Guyot. Un projet estimé à 14 milliards d'euros pour lequel l'État s'est engagé à financer 40% et l'Europe 20%. Les collectivités territoriales doivent donc payer les 40% restants. Seuls le département du Lot-et-Garonne et la communauté d'agglomération du Grand Dax ont refusé de participer au financement. L'ensemble des autres collectivités territoriales, 23 au total, se sont engagées à apporter leur soutien financier au grand projet du Sud-Ouest. Pour boucler le plan de financement des lignes grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, reste désormais 235 millions d'euros à trouver par les collectivités territoriales, soit 2,4% en net du budget total du grand plan Sud-Ouest. Les élus du Grand Toulouse ont voté, eux, une participation de 616 millions d'euros pour l'ensemble du projet. Il reste maintenant quelques semaines avant que le plan de financement ne soit transmis au Conseil d'État et que l'ordonnance soit prise ensuite par le gouvernement.
Dans un tout autre domaine, vous vous en rendez compte malheureusement tous les jours, la grève des éboueurs se poursuit dans la métropole toulousaine.
Alors que les poubelles s'amoncellent dans les rues de Toulouse et de l'agglomération, les éboueurs ont prévu d'amplifier le mouvement de grève dès ce mercredi 22 décembre. Les agents de collecte de Toulouse Métropole ont poursuivi la grève débutée il y a une semaine. Il y a près de 90% de grévistes rien que sur la ville rose. Les éboueurs protestent contre la fin du fini-parti et ont donc fait le choix de ne pas terminer toutes les tournées, ce qui a conduit Toulouse Métropole à faire appel au privé pour ramasser une partie des poubelles. Pour les syndicats, ce mouvement n'est que le reflet de ce que sera la collecte des ordures ménagères demain, avec la fin du fini parti. En fin de semaine dernière, au lendemain d'un rassemblement des agents devant le Conseil métropolitain, les syndicats représentant les éboueurs avaient pourtant acté l'abandon du fini parti. Reste à ce jour à traiter les mesures de compensation mises en place pour sceller la fin du fini parti.
Et puis une nouvelle tout de même plus réjouissante pour terminer, Toulouse reçoit un Grand Prix du patrimoine pour la piste des Géants.
Le Grand Prix du patrimoine 2021 de l'Aéroclub de France a été décerné à Toulouse Métropole pour le volet patrimonial et mémoriel de la piste des Géants. Celui-ci comprend l'envol des pionniers, la piste historique de 1,8 km et les jardins de la ligne. Ce Grand Prix remis par le ministère de la Culture récompense le travail mené en matière de préservation ou de restauration du patrimoine aéronautique. Le site met à l'honneur et fait connaître l'incroyable épopée toulousaine qui a vu naître l'aviation civile avec le premier vol Latéco Air parti de Montaudran, puis l'aéropostale et ensuite Air France. Après les jardins de la ligne, un parcours paysager évocateur des paysages survolés par les pionniers de la ligne. Ouvert en 2017, l'envol des pionniers, espace dédié à la mémoire de l'aéronautique, créé en partenariat avec les descendants des pionniers et de nombreuses associations, a lui été inauguré en 2018. Site témoin des premiers temps de l'aviation commerciale, il s'inscrit dans le pôle de culture scientifique, technique et industrielle de Toulouse Métropole, qui regroupe également le muséum, le Quai des Savoirs, la Cité de l'Espace et Aéroscopia.
L'actualité métropolitaine vue par Corinne Saint-Félix et Annette Léniaud, je pense que vous aurez un mot à dire sur la troisième information de ce flash. Ce Grand Prix du patrimoine attribué à Toulouse pour la piste des Géants, ça c'est une excellente nouvelle qui récompense un projet cher au cœur des élus et des citoyens métropolitains, en tout cas je le pense, parce qu'il met en valeur un lieu emblématique de l'épopée aéronautique toulousaine. C'est là que tout a commencé en fait, et là aussi c'est un projet tourné vers l'avenir.
Oui, vous venez de le dire, c'est là que tout a commencé. Et Toulouse serait-elle ce qu'elle est, capitale mondiale de l'aéronautique, s'il n'y avait pas eu, à un moment donné, l'intelligence des hommes et l'audace et le courage de certains, l'audace des pilotes, l'intelligence absolue des ingénieurs, puis l'audace de l'entrepreneur lui-même. Donc moi, je trouve que c'est une reconnaissance de toute une histoire, de toute une épopée qui a fait que Toulouse est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc pour cela, je trouve ça exceptionnel. Et puis c'est également, ça démontre aussi notre volonté sur un territoire de mettre en valeur ce qui faisait l'histoire de ce territoire, l'identité de ce territoire, et malgré tout, de construire l'avenir. Et cette opération sur l'ensemble de Montaudran en est un témoignage, puisqu'il y a d'un côté au sud, il y a l'intelligence avec le campus et toute la réflexion qu'il peut y avoir sur les systèmes embarqués, sur le spatial, toujours sur l'aéronautique. Il y a au nord la mémoire du site, on vient d'en parler, donc ce musée des pionniers, le témoignage de l'itinéraire par les jardins de la ligne, et puis au cœur du système, il y a un quartier nouveau qui a émergé, qui est en train de se créer, avec toutes les aménités nécessaires à la vie d'un quartier, des commerces, des loisirs, et une place où on vit, et puis des logements qui ont été calibrés pour accueillir des populations, pour de la mixité, et je trouve que c'est une façon de recréer un quartier en le reliant à notre passé, l'avenir, et puis au reste du quartier. Il y aura la troisième ligne de métro qui passera au milieu. Donc je crois que ça symbolise un petit peu tout ce que nous souhaitons faire pour associer le passé, le présent, avec la nécessité de construire pour accueillir, et également l'avenir avec toute l'intelligence et la réflexion que nos chercheurs
les labos de recherche, voilà. L'innovation, oui, effectivement, voilà. Qui est en cours là-bas sur ce site de Montaudran. Merci pour cette réaction et ce commentaire. Nous allons revenir maintenant à notre sujet du jour, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, le focus de la semaine.
Métropolez-vous.
Suite de Métropolez-vous en compagnie de notre invitée du jour, Annette Léniaud, adjointe au maire de Toulouse et vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'urbanisme et des projets urbains. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout de même, vous l'avez déjà un peu fait, le contexte dans lequel ce plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Toulouse Métropole se met en place? Il y a l'évolution historique et urbaine de la ville, de la métropole, notamment du centre ancien de Toulouse. Tout ça rendait sans doute nécessaire et impératif de planifier un peu les choses et d'inventorier.
Alors, il y a cette volonté de mieux connaître le patrimoine historique que nous avons dans le centre-ville, de faire en sorte qu'il soit protégé. Donc, pour le préserver, il faut le connaître et de le faire évoluer. Et ça s'inscrit dans une ambition qui est une ambition beaucoup plus forte encore, puisque dès 2014, je le disais tout à l'heure, et c'est toujours l'ambition que nous avons avec que Jean-Luc Moudenc a et que je partage avec lui. C'est une ambition de long terme qui était, rappelez-vous, d'inscrire Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je précise que c'est pas un objectif en soi, c'est une ambition. Alors bien sûr, l'objectif c'est de l'obtenir, mais c'est l'ambition, c'est notre fil conducteur, c'est notre fil rouge. Et cette ambition, elle démarre par la connaissance parfaite du patrimoine, et puis elle se poursuit par l'entretien, la préservation de ce patrimoine, et puis on aura peut-être l'occasion d'aller au-delà, puisqu'on dispose déjà de patrimoine historique de l'UNESCO, qui relève du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Avec le canal du Midi,
donc,
et l'hôtel,
voilà. Donc on poursuit dans cette démarche-là, mais la mise en œuvre d'un outil pour bien gérer le patrimoine historique du centre-ville fait partie de cette ambition et fait partie entière de cette ambition.
C'est une démarche qui a pour objectif aussi de favoriser bien sûr le développement de la ville, mais en intégrant les dimensions historiques, sociales, économiques, voilà. Et fonctionnelles.
Oui, le secteur patrimonial remarquable, c'est un périmètre où on a identifié du patrimoine, puisque c'est un périmètre qui a été défini avec l'État, qui reconnaît la valeur patrimoniale à l'intérieur de ce périmètre. Mais à ce secteur patrimonial remarquable, on associe un mot barbare que vous avez évoqué en préambule, qui est le PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Alors ce PSMV, c'est quoi ? Ben, c'est un document d'urbanisme, tout simplement. C'est le document d'urbanisme qui va permettre, c'est d'abord un projet urbain, et ce projet urbain se traduit par un règlement qui est ce fameux PSMV et qui est le document d'urbanisme qui va accompagner la préservation et l'évolution de ce secteur patrimonial remarquable. Voilà, donc, et ce document d'urbanisme, c'est celui-ci qui fait l'objet d'une concertation et que nous travaillons avec les habitants et qui est un document qui est élaboré avec l'État, puisque c'est le garant de la sauvegarde du patrimoine, c'est l'État avec la DRAC et avec l'architecte des bâtiments de France.
Donc il fixe des règles, ce document, et c'est vraiment des règles, c'est très précis. C'est à la parcelle, ce sont des règles, des indications quant aux interventions qui sont possibles sur les espaces bâtis, les appartements, les communs et aussi non bâtis. Voilà. Alors, quand on parle de non bâtis, c'est les cours, les jardins, des choses comme ça.
Absolument, parce que ce document d'urbanisme, comme tout document d'urbanisme, c'est avant tout la traduction réglementaire d'un projet. Et il y a d'abord un projet urbain. Que voulons-nous faire de ce centre-ville historique, patrimonial, où il y a des choses exceptionnelles, d'autres qui le sont moins, mais nous voulons faire, et c'est vraiment une essentiel pour nous voulons maintenir la vie dans le cœur historique de Toulouse, nous voulons préserver ce qui est remarquable, ce qui doit être préservé, mais nous souhaitons que ce quartier vive. C'est un quartier où on va à l'école, c'est un quartier où on va travailler, c'est un quartier dans lequel on se promène, c'est un quartier dans lequel on se repose, donc c'est un quartier qui vit.
C'est un lieu de vie.
C'est un lieu de vie et qui
et
est un
travail,
lieu
et où et on commerce, travaille
et qui doit évoluer. Donc il y a du commerce, il y a de l'artisanat, pourquoi pas ? C'est un centre-ville où il y a de la mixité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des familles, il faut qu'il y ait...
Ça, c'est l'aspect social.
Il y a l'aspect social. Donc, ce projet urbain fait une analyse de son patrimoine environnemental. Il faut qu'il y ait des cœurs d'îlots végétalisés parce qu'il faut des îlots de fraîcheur, y compris à l'intérieur du centre-ville. Mais c'est un quartier qui vit aussi, qui a des commerces, qui a des lieux d'accueil de jeunesse, des restaurants. Enfin bon, c'est un quartier qui vit. Et c'est ça avant tout. Et ça se traduit ensuite par des règles de préservation, de démolition s'il y a lieu, d'évolution,
rénovation.
De rénovation, de rehausse, de tout ce qui fait la vie dans un quartier.
Alors tout de même, ce PSMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur, il s'appuie sur des outils et sur des moyens. Et on en a déjà évoqué un, c'est l'inventaire. Comment vous procédez pour réaliser cet inventaire ?
Alors, un premier inventaire avait d'abord été fait en 86, puisque la création du secteur, à ce moment-là, secteur sauvegardé avait été fait, il y avait déjà eu des études. Nous avons hérité et vérifié l'inventaire dont nous disposions déjà, que nous avons complété. J'ai expliqué tout à l'heure, il y a 4000
immeubles. Parcelles, immeubles.
Donc, ça fait 4 ans que nous y travaillons. Hein. Donc, il y a eu... Nous avons écrit à tous les propriétaires de
oui, parce que je crois que ça concerne tout de même 35 000 habitants.
C'est pas rien, 35 000 habitants de propriétaires qui vivent ou qui n'y vivent pas. Donc, il y a des propriétaires, des locataires. Enfin, nous avons écrit à tous les propriétaires qui font partie du secteur patrimonial remarquable pour leur expliquer ce que nous faisions, pour leur expliquer qu'ils étaient probablement propriétaires d'un patrimoine absolument fabuleux qu'ils connaissaient ou qu'ils ne connaissaient pas, que la collectivité avait souhaité se doter d'un service de l'inventaire avec des professionnels, des diplômés d'histoire de l'art, d'autres d'architecture,
oui,
de patrimoine.
C'est une étude sérieuse
avec des gens qui ont de la compétence. Qui ont de la compétence. Bon, avec des règles que nous avons d'éthique, de respect, enfin tout ce qui peut accompagner et de confidentialité, parce qu'on pénètre dans les appartements.
Et oui.
Parce que
donc il faut prendre rendez-vous, on ne va pas frapper à la porte comme ça.
On s'intéresse au patrimoine extérieur, au bâti extérieur, aux cours, mais il faut pénétrer dans les cours et dans les appartements. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait, puis il y a certains propriétaires qui ont tout d'un coup, qui ont eu une révélation que derrière leur plafond...
Il y a une fresque ou je ne sais quoi.
Il y avait des fresques ou des plafonds à la française qu'ils ignoraient totalement parce qu'il y avait eu des remaniements qui avaient été faits sans autorisation parce que c'est comme ça.
Parce que
ça se fait. Et puis ça se fait en toute bonne foi. Hein, ça se fait pas forcément.
Sûr, oui.
Pour tricher. Et donc, il y a des habitants qui ont découvert qu'ils vivaient dans un patrimoine remarquable. Donc, On leur a expliqué tout cela. On leur a expliqué que c'était confidentiel. On a une base de données, on a tous ces éléments, mais qui ne sont pas communiqués ni diffusés. Et c'est sur la base de tout ce travail qui a été complété. Donc, j'ai expliqué l'inventaire dont nous disposions et le complément qui a été fait. Et c'est à partir de cela que nous avons pu identifier les secteurs qui étaient le patrimoine dont nous disposions. Et bon, c'est fabuleux, quoi, c'est enrichissant.
Autre outil, bien sûr, l'inventaire en premier, mais aussi la concertation. Ça consiste en quoi, la concertation ?
Alors, nous avons organisé une réunion récemment sur la concertation, sur les deuxièmes cahiers de concertation. Et là, nous leur avons présenté le diagnostic.
Aux habitants.
Donc, nous avons fait une réunion publique. Nous avons expliqué ce qu'était un PSMV, un projet urbain, ce que nous voulions faire du centre-ville. Nous leur avons présenté le diagnostic. Nous leur avons demandé. Il y a un site, je participe, sur lequel ils peuvent intervenir, faire part de leur souhait de voir évoluer le centre-ville, de leur questionnement, mais surtout de leur avis. Sur tout cela et ils s'inscrivent sur la plateforme, je participe. Et là, le troisième cahier de concertation que nous allons ouvrir aura lieu en début 2022, dans le premier trimestre, je crois, 2022. Et là, nous en parlerons règlement.
Puisque vous parlez de date, le calendrier, là, quelles sont les différentes phases nécessaires à l'élaboration et à la finalisation du PSMV ?
Alors, ce travail se fait en partenariat, enfin, il est même conduit sous la maîtrise d'ouvrage de l'État. Mais nous participons sur le fonds financièrement à hauteur 50% la collectivité et l'État. Et c'est un document qui doit subir, puisque c'est un document d'urbanisme. Bon, la concertation, on le sait, tous les documents d'urbanisme. Il doit faire l'objet d'une enquête publique. Il doit faire l'objet de délibérations du conseil municipal et du conseil métropolitain. Mais il doit être présenté à des commissions, et notamment une commission, alors commission locale qui a été créée sous la présidence conjointe du préfet et de Jean-Luc Moudenc, mais également il doit être présenté à la commission nationale pour avis de l'État sur le contenu de notre
commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Donc on connaît bien cette commission, puisqu'on a déjà eu l'occasion de présenter notamment pour la Toulouse Ville d'Art et d'Histoire, mais nous connaissons bien cette commission nationale et nous devons présenter notre dossier. Et c'est à l'issue de cette présentation que le dossier fera l'objet de la fin de la procédure administrative
et
de l'approbation en 2023.
Et lorsqu'il est approuvé, en fait, il se substitue au règlement d'urbanisme en vigueur actuellement sur le site patrimonial.
Voilà.
Remarquable. Ça, c'est la dernière phase.
Voilà.
Une dernière question, vous l'avez évoqué à un moment donné dans notre conversation. Est-ce que le PSMV est un document essentiel au dossier de classement du centre historique de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Et puisqu'on en parle, où en est-il ce dossier ?
Alors, le cœur historique, c'est fini l'époque où l'identification d'un patrimoine suffisait à faire partie, à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, parce que des patrimoines historiques, il y en a partout finalement, et que ce n'est pas universel, puisque ce n'est pas un critère d'universalité. Par contre, ce qu'exige l'UNESCO, c'est la raison pour laquelle nous nous inscrivons dans cette démarche-là, c'est de garantir que nous entretenons et que nous avons des plans de gestion des biens et de se préoccuper de l'évolution du centre historique fait partie de cette ambition de préserver notre patrimoine. Donc le centre historique, c'est pas cela qui va nous conduire au classement UNESCO, mais c'est la démonstration que la collectivité s'intéresse particulièrement à son patrimoine. Alors, vous me posez la question sur où en est ce dossier. Bon, pour aller très vite, nous nous sommes rendus compte très très rapidement que le chemin était très long pour le maintenant, parce que les règles ont changé. À une époque, il suffisait d'avoir du patrimoine exceptionnel, mais beaucoup long pour faire partie de cette liste du patrimoine mondial. Mais actuellement, c'est fini. Parce qu'il y en a trop, il y en a beaucoup trop.
Notamment en France.
Et
notamment en Occitanie.
Et notamment en Occitanie. Alors, c'est double peine avec, c'est vrai, notre richesse en Occitanie, mais en Europe et en France, il y a énormément de sites qui sont positionnés et de villes qui sont positionnées. Et c'est vrai que l'UNESCO privilégie maintenant les pays émergents. Voilà, parce qu'ils en ont besoin également, et au détriment peut-être de l'Europe et de la France. D'autre part, une année sur deux, c'est patrimoine culturel, patrimoine
immatériel,
naturel.
Oui.
Donc déjà, ça repousse, ça divise par deux aussi. Et certaines villes sont déjà
bien avancées
et prêtes à accéder au Graal, parce que avant d'être reconnu patrimoine UNESCO, il faut avoir été identifié par l'État français.
Oui, par le ministère de la Culture.
De la Culture.
Oui.
Et le ministère de la Culture est excessivement exigeant.
Oui.
Et exige non pas qu'il y ait un bien qui relève de l'universalité, mais qu'on ait une histoire qui soit universelle. On a des histoires, parce que Toulouse est riche de toutes ces périodes.
Oui, oui, bien sûr.
C'est vrai que... Il nous manque peut-être des vestiges visigoths, encore qu'en creusant un peu,
on peut en trouver. Doute, oui.
Mais au-delà des vestiges visigoths, on a toute la période. Et on a du patrimoine de toutes les périodes.
Oui.
Donc, il faut raconter cette histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire toulousaine. Mais alors, on avait identifié une histoire sur les pouvoirs, le pouvoir religieux, le pouvoir local, avec les capitouls,
oui.
le pouvoir royal. Bon, ça ne suffit pas parce que l'universalité est difficile à démontrer, parce qu'il y en a d'autres qui ont eu un petit peu, notamment en Italie, ces luttes
donc
de pouvoir.
Donc il faut vraiment bien se démarquer.
Donc, il faut se démarquer, et comme on s'est rendu compte que c'était pas pour demain, parce qu'on n'avait aucune chance d'y accéder demain, donc, parce qu'on n'était pas les premiers, donc on s'est laissé du temps.
Donc vous réfléchissez.
Donc on travaille toujours.
Voilà, vous réfléchissez. Alors,
mais on a maintenu cette ambition malgré tout, et cette ambition, elle se traduit aussi par la gestion des biens dont nous disposons.
Et leur préservation,
et leur
protection.
Nous avons la basilique Saint-Cernin, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des biens Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous l'avons restaurée, nous sommes en cours de restauration. Nous avons magnifié son écrin avec la place qui a été aménagée. Et nous nous inscrivons dans le plan de gestion, donc nous allons raconter et à l'État comment nous avons entretenu ce bien, c'est en cours. Et puis il y a le canal du Midi, avec le plan canal, il y a le plan Garonne qui est lié à Saint-Cernin et à l'Hôtel-Dieu. Avec ce que nous faisons sur la chapelle Saint-Joseph, je crois que nous nous inscrivons dans ce registre. Donc pour la gestion du bien, nous sommes au rendez-vous. Et puis nous avons le grand plan canal. Le canal du Midi, nous sommes en train de travailler sur la gestion du bien canal du Midi, et nous avons une ambition sur ce plan canal qui intègre la traversée du canal du Midi sur Toulouse. Voilà. Donc vraiment, nous essayons, et puis alors nous avons d'autres pistes, hein, puisque nous avons les annales des capitouls, hein, qui peuvent s'inscrire dans un label qui est un label UNESCO, qui est peut-être pas aussi prestigieux que le label mondial, que le patrimoine mondial, mais qui est un label UNESCO qui est connu pour les archives des capitouls, puisque nous avons, depuis le XIVe siècle, des recueils des capitouls sur toutes leurs actions.
Eh bien merci, il est temps de conclure cette émission. Merci d'y avoir participé, Annette Léniaud. Merci de nous avoir apporté toutes ces explications, ces éclairages sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Toulouse Métropole, sur son élaboration et ses objectifs vraiment cruciaux pour la préservation du patrimoine de notre belle métropole toulousaine. Vous l'aurez compris, je signale que des informations sont disponibles concernant ce document et la concertation en cours en consultant le site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr. À la catégorie projet. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes en famille et entre amis. À bientôt.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.